Et cette fois, c'est le moment de la chronique Sport Business avec notre ami Ray Lalonde. Bien le bonsoir, mon Ray.
Bonsoir, Mario.
Alors, les sujets sont nombreux, puis c'est drôle, j'ai envie de pas nécessairement commencer dans l'ordre qu'on avait établi, si tu me permets, parce que on a tellement parlé des enjeux sociaux aux États-Unis, puis d'ailleurs, ça c'est non seulement aux États-Unis, mais au Canada, par rapport au respect des droits des minorités, les iniquités sociales, et etc. Puis oui. On constate que les audiences télé sont en baisse pour tout le sport en général. Puis c'est vrai que pour à la défense de ces sports-là puis de ces circuits professionnels, ils sont pas diffusés dans le temps de l'année où ils sont habitués d'être diffusés par rapport à leur finale. Mais une des ligues qui souffre le plus, c'est la NBA. Et quitte à ce que ça fasse plaisir aux Républicains et compagnie, c'est que d'avoir endossé de façon aussi affirmative la cause de Black Lives Matter, est-ce que ça leur nuit? Est-ce que le public, les téléspectateurs, finalement, veulent juste voir du monde jouer au basket, même si c'est insultant un peu, dire « dribbler puis jouer au basket, on veut rien savoir du reste? »
Oui. C'est intéressant comme observation, Mario. Puis la première tendance, c'est de dire probablement que le fait qu'ils ont été un peu distraits par des causes sociales a probablement irrité des gens. Mais j'ai lu une étude aujourd'hui, Mario,
oui,
qui dit le contraire.
Ah, ben, je suis
qui dit que le
ça.
Profil des gens qui regardent les matchs sont pas ceux du tout qui ont été affectés par le mouvement social.
Okay.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, je vais prendre l'exemple de LeBron James qui ce soir va tenter de gagner son 4e championnat dans ses 10 apparitions en finale de la NBA, ce qui est quand même extraordinaire, mm-hmm, comme carrière. On blâme souvent LeBron James d'être trop vocal, trop verbal, trop bruyant dans ses efforts. Mais je rappelle aux gens qu'en 2003, 2004, dans ce coin-là, quand LeBron James s'est joint à la Ligue se cherchait un second souffle après Michael Jordan, puis vers la fin de la carrière de Kobe Bryant. Puis LeBron James, à l'époque, la NBA avait un cap salarial qui tournait autour de 40 millions de dollars. Aujourd'hui, Mario, le plafond salarial de la NBA s'est rendu aux alentours d'à peu près 110 à 115 millions pour 12, 13, 14 joueurs. Mm-hmm. Autrement dit, le pourcentage d'augmentation de tout l'aspect commercial a fait en sorte que la NBA n'a jamais été aussi bien financièrement. Et je répète encore que les matchs sont diffusés dans à peu près 190 pays dans le monde entier.
Le rayonnement global est phénoménal.
Ouais. Ouais, ouais. Fait que ça vaut quelque chose, ça. Faut pas sous-estimer que des fois, tu vas sacrifier des partisans, des téléspectateurs dans la façon traditionnelle aux États-Unis en retour d'un rayonnement mondial qui fait en sorte que la NBA, c'est la ligue la plus mondiale sur la planète aujourd'hui, sans équivoque, dans tous les sports, y compris la Premier League.
Est-ce que ça serait étrange de dire que, puis ça me vient comme ça en t'écoutant, Ray, que dans le fond, ces athlètes-là incarnent davantage pour les gens ailleurs sur le globe qu'aux États-Unis, c'est les athlètes de la NBA incarnent davantage le rêve américain que la politique actuelle?
Oui. Oui, absolument. Ils sont les chandails des Lakers, des Bulls, des Celtics. Ce sont des chandails, des casquettes, des produits dérivés très populaires. L'histoire de Jordan, de Magic Johnson dans le temps, jusqu'à aujourd'hui avec LeBron James, Kawhi Leonard et ainsi de suite, ça rayonne dans le monde, ça connecte avec le monde entier.
Oui.
Tu sais que le basketball, c'est le sport le plus populaire de loin dans un pays comme les Philippines, par exemple. Tu sais, ça a l'air de rien, mais les Philippines, c'est plus de 100 millions de personnes. C'est des gens qui adorent le basketball. Alors, c'est la NBA perce. Puis, ironiquement, hier, là, CCTV, là, le diffuseur national de la Chine, a annoncé hier, « OK, on reprend match 5 et on le diffuse en Chine ce soir. » Rappelle-toi, le 4 octobre dernier,
c'est la fin du boycott?
À cause du boycott. Il n'avait pas diffusé un match depuis.
Oh.
Et là, il diffuse ce soir. C'est drôle parce qu'il n'y a pas eu de négociation entre-temps. Là, il n'y a pas eu...
Mais non.
Ça s'est calmé.
Ça fait plaisir à leur peuple, dans le fond.
Absolument, Mario. Tu viens de mettre le doigt dessus.
Aussi
quand je regarde les
ça.
Audiences télé, Mario, là, la NBA, jusqu'à maintenant, en baisse de 48%.
C'est
mais
sérieux?
Je vais te donner les autres chiffres. Ça, c'est en date d'aujourd'hui. Là. Le baseball majeur, les séries éliminatoires, en baisse de 39%. La NFL, après 4 semaines d'activité, en baisse de 14%. Les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey, moins 25%. Et la finale de la Coupe Stanley, moins 61%. Bon, alors, la NBA est dans le même paquet que les autres.
60 et quoi, la finale?
Moins 61% versus l'an dernier Blues Bruins.
Sauf que c'est hors calendrier, ça peut être une raison. Puis, oui. Puis le monde ont d'autres préoccupations aussi en ce moment. Là, il faut l'admettre. Et Mario, d'ailleurs, sais-tu quoi? Je vais le dire drette là, ce soir. Puis quand je dis qu'il y a d'autres préoccupations, puis on n'est pas insensible, on n'est pas à l'abri de ça. C'est malheureusement, ou je ne sais pas comment trop l'annoncer, mais c'est la dernière édition régulière des amateurs de sport pour un bout de temps, parce qu'à partir de mardi prochain, mes patrons, mes employeurs et les Cogeco ont décidé que on ramenait l'anglo en direct. Parce que l'actualité, puis le monde du sport, évidemment, sera moins actif. Avec la pause dans le calendrier, pas de football canadien, pas de Canadien, le baseball achève. Là, on verra si la NFL peut avancer dans son calendrier. Fait que nous autres aussi, on le subit. Là. T'sais, nous autres aussi, on doit, puis on va faire de notre mieux, bien sûr, puis je ferai de la présentation en conséquence mardi en début d'émission. Mais donc, c'est toute l'industrie du sport qui subit la pandémie, malgré les efforts pour qu'on présente des matchs.
Oui. Tu sais, Mario, tu l'as bien dit, c'est, on s'ajuste. Le mot-clé aujourd'hui, en 2020, là, c'est l'habilité, la capacité de pivoter. Et ça, c'est comme quand on dit, là, t'as pivoté sur un dizaine, c'est ça, là. C'est de s'ajuster quotidiennement, de modifier la planification, de trouver tout de suite la prochaine contingence. C'est quoi l'alternative? Quelles sont nos options? Mm-hmm. Comment on va réagir demain? Parce qu'on ne connaît pas ce que demain nous réserve. Alors, soudainement, l'émission Amateur de sport fait place à Mario Langlois en direct qui permettait de couvrir un peu l'ensemble de l'actualité.
Exact.
Parce que c'est ça
c'est cette souplesse-là qu'on veut se redonner.
Ben oui, puis c'est ça qui est nécessaire aujourd'hui. C'est de ramener le focus sur qu'est-ce qui est vraiment prioritaire. Mais pendant ce temps-là, l'industrie du sport, Mario, va se poursuivre.
Exact.
Ils vont patauger, ils vont trébucher. Puis il va y avoir des succès, il va y avoir des grands moments. Je pense là à dimanche matin à Roland-Garros, là, c'est le classique pour la 56e fois, Djokovic contre Nadal. C'est un gros événement, ça. C'est mondial. Mais dans un mois et demi, c'est le Masters en Géorgie pour la PGA Tour. Au mois de novembre plutôt qu'au mois d'avril. T'sais, le temps change, on s'ajuste. Et surtout, Mario, le message, c'est que tout le monde essaie de survivre.
La différence avec la première parenthèse COVID, c'est qu'on va être plus diverti dans la deuxième que dans la première. Même si ça risque d'être probablement, au niveau sociétal, plus difficile dans la deuxième que dans la première.
T'as raison, parce qu'on prend des risques et on va de l'avant. Mais on a plus d'intelligence, on a plus d'informations pour gérer. T'sais, on n'est pas dans un shutdown, excuse l'expression, une fermeture complète d'un seul coup, là, même dans le sport. Donc, on va garder des choses en mouvement. Par exemple, la NFL, qui vit avec des équipes qui sont en train de trébucher puis de frapper des murs à cause de leur négligence, à cause de leur inattention. Les Titans du Tennessee, là, c'est comme une trentaine de personnes, tu sais, autour du giron de l'équipe qui sont atteints, Mario, c'est inacceptable. Il y a eu de la négligence. Aujourd'hui, la NFL a annoncé que des pénalités de 15 verges si quelqu'un ou un entraîneur ou un joueur va parler à l'officiel sans garder son masque, enlève le masque pour te faire entendre 15 verges de pénalité pour protéger les officiels.
C'est incroyable parce que là, on était dans les choix de repêchage il y a deux semaines. Là, on est vraiment dans des pénalités qui pourraient affecter le déroulement d'un match dans les médias. Mais c'est le prêt à payer pour vouloir continuer. On veut continuer d'avancer dans la société à travers la COVID. Et il va falloir continuellement s'ajuster. Je voudrais pas qu'on se quitte sans aborder les autres sujets qu'on avait prévus. Alors, peut-être davantage en rafale, Ray, sur Roland-Garros, avais-tu autre chose à ajouter par rapport au déroulement du tournoi?
Moi, je pense que c'est encore une fois la démonstration que quand les organisateurs, les dirigeants sont déterminés à livrer, là, puis que les athlètes se présentent préparés dans la mesure du possible, ça a été un tournoi exceptionnel. Mais il a fait froid, il pleuvait. Roland-Garros a dépensé 230 millions pour refaire le site, dont 75 millions sur le toit du court Philippe Châtrier, dans le but éventuellement, Mario, de faire des événements de soirée, c'est-à-dire tennis en journée un biais, tennis en soirée un autre biais, donc on peut doubler les revenus. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'on soit coincé dans une pandémie et de jouer Roland-Garros, un événement traditionnellement qui a lieu au mois de fin mai, début juin, mais là, on est en octobre. Mais à la fin, là, demain, là, une finale exceptionnelle. Sofia Kenin, du côté américain des femmes, et la petite Iga Swiatek, 19 ans en finale. La première fois qu'une Polonaise atteint la finale d'un tournoi du Grand Chelem, c'est extraordinaire. Et Nadal Djokovic, dimanche matin. Honnêtement, bravo à Roland-Garros qui a livré ça.
Et peut-être sommairement, la situation de la COVID versus NFL, des matchs remis, puis là, ben, veux pas, eux autres aussi sont contraints d'improviser avec le calendrier.
Oui, je pense que ce qui va arriver, Mario, c'est que ça risque de peut-être pas avoir un calendrier où toutes les équipes jouent 16 matchs.
Je pense que c'est ça qui va arriver.
Ouais, donc, on va devoir se satisfaire d'un pourcentage de victoires pour établir les équipes au classement. Il y a des équipes qui sont en grosse difficulté, puis il y en a qui, comme aujourd'hui, les Jets de New York, ont eu un test. Tout le monde a été renvoyé à la maison instantanément. Puis, tu sais, on est le vendredi, puis le match est dimanche. Ça complique les choses dans la préparation, Mario. S'il y a une raison pourquoi il y a 15 coachs de football dans une équipe, c'est parce qu'il y a tellement de travail de préparation. Puis si tu déroges à ton calendrier, puis tu sautes une journée, mettons que ça peut compliquer les choses pour la préparation. Alors, on n'a pas fini d'entendre parler des situations explosives potentiellement pour la NFL. Mais Mario, c'est une business de 19 milliards de dollars. Ils ne veulent pas échapper cette saison-là. Ils vont pénaliser les récalcitrants, là, les fêteurs de troubles, de façon à ce qu'ils puissent poursuivre la saison.
Et pour terminer, et c'était le premier sujet de la chronique, finalement, j'ai parti ça à l'envers, CH et LHJMQ, un mot là-dessus, Ray?
Moi, je l'ai répété depuis quelques jours que, à mon avis, on n'a pas le choix que de regarder le bulletin. Je suis un gars de bulletin, moi. Je regarde pas trop en arrière sur le passé, je regarde vers l'avenir, mais je me fie au bulletin du passé. Je me fie aux résultats. Puis concrètement, les Canadiens n'ont pas fait le travail. Si les Canadiens avaient gagné pendant toutes ces années-là avec des joueurs provenant de la planète, ben on n'aurait rien à dire comme consommateurs, partisans, journalistes, membres des médias, investisseurs. Mais les Canadiens ne livrent pas les produits sur la glace. Et pendant ce temps-là, on continue de laisser filer du talent québécois. Quand on sait qu'on est dans une situation très particulière. J'ai été là 10 ans avec les Canadiens. Je sais que c'est particulier le français pour les Canadiens. Puis des fois, on avait des choix à faire qui n'étaient pas faciles. Et je ne questionne pas le talent d'un joueur. Il faut toujours que tu prennes le meilleur joueur disponible. Mais ce n'est pas concret pour moi de penser qu'il n'y a pas de joueur québécois capable de briser l'alignement des Canadiens et de s'infiltrer dans cette équipe-là un jour ou l'autre. Ça, je trouve ça décevant. Je trouve que les Canadiens ne sont pas à l'écoute de leur marché. Je dis bien le marché parce que c'est ce marché-là qui les fait vivre et qui les fait vivre richement, Mario. Donc là-dessus, là, il y a des améliorations à apporter. Je n'ai pas vraiment de pitié pour des dirigeants qui disent que c'est dur, puis on est tanné de se faire accuser, puis tout ça. Moi, je veux voir des choses concrètes, comme tout le monde, parce que c'est pas la première fois, donc c'est une répétition. On va probablement en reparler l'an prochain au même moment.
Ray, merci de t'être prononcé comme d'habitude. C'était très intéressant ta chronique Sport Business. On te suit sur Twitter, sur Instagram également, et je te dis bon et long week-end. À
merci,
bientôt.
Mario.
Merci,
bonne
Ray.
Soirée.